debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave, debout, debout, debout.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec Debout. Nous sommes un collectif féministe mixte et anticapitaliste de Nancy. Le salaire à vie est-il une réponse aux abus et aux pressions du travail salarié? Et le salaire à vie est-il une garantie pour une vie digne? C'est notre question d'aujourd'hui. Moi, c'est Katia.
Alison.
Maya.
Minel.
Voilà, depuis des décennies d'années, la France connaît le chômage de masse. Actuellement, 10,3% de la population active est en chômage en France, selon les statistiques du site internet insee.fr. Le vrai chiffre des personnes sans emploi est sûrement encore plus élevé, car les statistiques ne prennent en compte que certaines catégories de chômeurs. Ainsi, des personnes qui sont sous des contrats précaires, comme les contrats aidés, des étudiants, des stagiaires, et surtout toute personne qui n'ont plus le courage de s'inscrire au Pôle emploi, n'apparaissent pas dans les statistiques. Malgré le chômage de masse, les mœurs de notre société n'ont pas bougé. Il est toujours valable que nous sommes uniquement quelqu'un si nous avons un poste dans les salariats. Le travail salarié nous sert toujours comme référence pour créer une image identitaire de nous. Et au cas contraire, être sans travail, ça veut dire être personne. Ou encore pire, ça veut dire être une parasite, une personne assistée. Le système capitaliste fait croire aux chômeurs qu'ils sont seuls responsables de leur situation précaire, qu'ils ne font pas suffisamment d'efforts pour y parvenir. En tant que chômeurs, ils sont sous contrôle permanente, sous menace d'être radiés de la part du Pôle emploi. Ainsi, ils doivent prouver qu'ils méritent un revenu de survie, le RSA. La preuve de mériter le RSA passe par une grande disponibilité et l'acceptation des postes sous mauvaises conditions de travail et des postes surtout qui ne plaisent pas forcément. Et forcément, les personnes se retrouvent dans les cercles vicieux, espérer, qui amènent souvent à la dépression et au burn-out sur le long terme. Les personnes se sentent humiliées et elles ont honte. Le chômage est rien d'autre qu'une humiliation permanente qui rend malade les personnes concernées. Bon, comment changer de société qui donne de la valeur qu'aux personnes actives dans un travail salarié? C'est dans ce sens que nous nous demandons, le salaire à vie est-il une réponse aux abus et aux pressions du travail salarié? Le salaire à vie est-il une garantie pour une vie digne? Le salaire à vie, c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons du modèle salaire à vie parce que nous avons invité une personne experte sur antenne qui défend l'idée de Bernard Friot, le salaire à vie. Je profite aussi ici et maintenant à remercier Minel d'avoir accepté la participation à notre émission de radio. Voilà, c'est dans un deuxième temps, on va nous échanger avec Minel sur le salaire à vie. Bon, le salaire à vie est un modèle parmi d'autres. L'idée d'un revenu ou un salaire qui est versé inconditionnellement à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire français commence à circuler dans les milieux militants. Mais les modèles n'ont pas les mêmes noms et ils se distinguent également dans leurs objectifs. Le salaire à vie ou le revenu inconditionnel ont en commun que tous les deux défendent un montant d'argent qui permette une vie digne. Ça veut dire qui est assez élevé pour pouvoir participer à la société. Chaque personne sur le territoire français reçoit donc inconditionnellement, les montants, ça varie environ autour des 1 000 à 1 500 euros, et il s'agit d'un virement automatique, contrairement aux allocations et au RSA d'aujourd'hui. Avec les revenus inconditionnels ou le salaire à vie, la personne n'a donc pas à prouver qu'elle est prioritaire ou qu'elle mérite de quelque part. Voilà. Et elle est vraiment inconditionnelle. En plus de cela, le salaire à vie et les revenus inconditionnels en commun, qu'ils défendent une redistribution qui permet plus de justice sociale, car plus égalitaire. Il n'y aura plus des écarts énormes dans les salaires et les personnes sans emploi ne seront plus dans des situations très, très précaires. Avec ceci, tout notre système de capitalisme sera mis en cause. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres modèles qui mettent pas en question tous les capitalismes. Ce sont les modèles autour du revenu de base. Et le revenu de base, par contre, ne va pas si loin dans la critique du système. Le revenu de base est une RSA, on peut dire une RSA généralisée et inconditionnelle. Bien sûr, c'est peut-être aussi déjà une avancée comparée à aujourd'hui, mais les inégalités inhérentes de notre système ne sont pas mises en question. Les revenus de base pourront même être utilisés par la droite pour faire taire les mouvements sociaux. C'est un vrai danger. Bon, avant de prendre le temps pour nous échanger avec toi, Minel, nous allons faire un saut de l'actualité. Ben voilà notre rubrique d'actualité où on va parler sur le projet de la loi. Bon, il y a des grèves et manifestations ont lieu tout le mois de mars.
Oui, les 9, 17, 22, 24 et 31 mars, des manifestations, des grèves pour dénoncer l'injustice du projet de loi travail, la loi El Khomri. Des manifestations de salariés de tous les secteurs, de chômeurs et de chômeuses, d'étudiants et d'étudiantes, de lycéens et de lycéennes. Et les jeunes dans la rue pour défendre leur avenir ont été fortement réprimés par la police, faisant plusieurs blessés.
Et pourquoi il y a ces mobilisations ?
Parce que cette loi de travail accentue la précarité des travailleuses et des travailleurs en détruisant le code du travail. C'est une régression historique de nos droits sociaux. Ces mesures ne peuvent qu'aggraver les inégalités. On a un gouvernement PS qui donne encore plus de privilèges aux possédants et qui démonte la protection des travailleurs et des travailleuses. Alors, qui peut encore croire que le PS est socialiste ?
Et que contient cette loi ?
Alors, aujourd'hui, dans le droit du travail, il y a le code du travail, qui est plus important qu'un accord de branche, qui est lui-même plus important qu'un accord d'entreprise, ce qui garantit une protection plus favorable aux salariés. La loi travail prévoit d'inverser cette hiérarchie des normes, donc le code du travail passe en dernier. Donc dans toute entreprise où il n'y a pas de syndicat combatif, les salariés seront à la merci des patrons. Donc la loi prévoit également l'augmentation de la durée du temps de travail quotidien, pouvant atteindre 12 heures, et hebdomadaire jusqu'à 60 heures par semaine, avec la possibilité de diminuer les salaires. Il y a également la simplification des procédures de licenciement, la baisse du taux de rémunération des heures supplémentaires, la plafonnisation des indemnités prud'homales et la remise en cause de la représentativité syndicale par le contournement que constituent les référendums d'entreprise.
Et c'est pour réduire le chômage.
Les patrons n'auront aucun intérêt à embaucher alors qu'ils ne pourront tout simplement faire bosser davantage les salariés. Et croire que faciliter les licenciements va créer des emplois est aberrant.
Et les aides sans précédent déjà versées aux entreprises n'ont pas profité à l'emploi et à commencer par l'emploi des jeunes.
Les mobilisations vont-elles continuer ?
Alors suite à ces mobilisations, le gouvernement a légèrement revu sa copie, mais ces légères modifications ne peuvent en aucun cas compenser les profondes régressions contenues dans la loi. Par exemple, il a retiré le plafonnement des indemnités aux prud'hommes, mais il a enlevé en même temps le plancher. La mobilisation continue jusqu'à retrait total et une coordination étudiante était prévue le 5 avril, une journée de grève de manifestation le 9 avril. Et donc, il y aura aussi d'autres dates à venir où on pourra se renseigner. Seule la lutte paie, la lutte pour protéger les droits du travail, mais aussi pour se battre plus largement pour une autre société.
Bon, la loi du travail, plein de changements qui n'apportent que davantage aux employeurs, on peut dire tout court,
oui.
Et pas du tout les avantages aux salariés.
Oui.
Bon, et tout ça, pour les femmes, plus précisément vu qu'on est un collectif féministe, pour les femmes, cela changera quoi pour les femmes? Notre rubrique « Être féministe », c'est quoi? Être féministe, c'est quoi?
Alors, être féministe, c'est analyser les choses avec des lunettes de genre. C'est-à-dire regarder ce qui se passe au niveau de l'égalité femmes-hommes. Alors, par exemple, réfléchir à quels impacts un changement du travail aurait sur les vies des femmes. Donc, c'est ce qu'on font la tribune Projet de loi travail, non à la double peine pour les femmes, qui a été publiée le 8 mars. Et le communiqué de presse du collectif national pour les droits des femmes, publié le 9 mars. Donc, qui analyse cette loi travail avec un regard féministe.
La loi travail, elle changera quoi pour les femmes?
Alors, tous les salariés seraient touchés, mais certaines conditions auront des conséquences particulières sur les femmes. Parce que ce sont elles les plus précaires, parce que ce sont elles qui touchent les salaires les plus bas, parce que ce sont elles qui sont majoritairement à temps partiel, et parce que ce sont elles et leurs enfants qui constituent la grande majorité des familles monoparentales.
Et qu'est-ce que cela implique?
Alors ce sont encore les femmes qui prennent très majoritairement en charge les tâches domestiques, l'éducation des enfants, l'accompagnement des personnes dépendantes. Et elles devront donc jongler encore plus en cas d'augmentation du temps de travail. Et ce projet de loi facilitera les licenciements de celles et ceux qui ne pourront pas s'adapter à la flexibilité imposée.
Et en cas de temps partiel?
Alors, il était fixé à un minimum de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel. Avec la nouvelle loi, la durée minimale du travail pourra être définie unilatéralement par l'employeur.
Que changera la loi El Khomri sur la santé des femmes salariées?
Alors, seuls les salariés dits à risque pourront bénéficier d'un suivi médical. Et la pénibilité des métiers féminisés, elle est très prise en compte. Voilà, comme par exemple pour les aides à domicile ou pour les caissières qui portent chaque jour 15 tonnes. Donc, on voit ce que ça peut signifier pour la santé des travailleuses. Et aussi, on sait que les femmes sont majoritaires dans les PME. Donc, c'est là où il y a moins de représentation syndicale. Donc, voilà, supprimer la primauté du code du travail, ça va encore plus pénaliser les femmes.
Oui. Quel changement sur le travail du CARE? Il faudra peut-être aussi dire qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, le CARE, les soins des proches. Ça veut dire le CARE. Quel changement sur le travail du CARE, du coup?
Alors, il y a le congé de solidarité familiale qui sert à accompagner un proche en fin de vie. Le congé de proche aidant qui sert à accompagner les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées. Et évidemment, ces congés sont en grande majorité pris par les femmes. Eh bien, ces congés ne seront plus assurés.
Donc, cette loi va aggraver les inégalités de genre.
Oui. Et actuellement, la France est classée 132e sur 145 pays en matière d'égalité salariale, donc de niveau de salaire homme-femme. Donc une régression serait particulièrement désastreuse pour les femmes. Au contraire, il faudrait faire converger le temps de travail des hommes et des femmes et permettre à toutes et tous d'exercer leurs responsabilités familiales. Toute réforme du Code du travail devrait se donner pour objectif de faire enfin de l'égalité une réalité. Et la question du travail, elle doit aussi se penser en fonction des femmes trans, des femmes de couleur, en situation de handicap et de toutes les personnes qui subissent encore plus les discriminations dans l'embauche et dans l'emploi.
Bon, alors les lois de travail n'ont vraiment pas d'avantage ni pour les salariés et particulièrement pas pour des femmes qui sont salariées. Bon, il y a une petite pause musicale avec la chanson « On va mieux que ça ». Et après, c'est Alison qui va nous expliquer de quel mouvement vient cette chanson. On vient mieux que ça.
«
réforme du code du travail.
On veut mieux que ça.
C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles.
On veut mieux que ça.
Se résigner sans livrer bataille. Qu'ils disent que l'on n'est pas taille. Que les gens acceptent qu'on les assaille.
Non, on vaut mieux que ça.
Qu'on laisse gouverner le patronat.
On veut mieux que ça.
Qu'on cesse de gouverner par vos lois.
On veut mieux que ça.
Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits.
On veut mieux que ça.
La loi et le Khomri.
On veut mieux.
Et toutes ces conneries.
On veut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu nous.
On veut mieux que ça.
Que toutes leurs tromperies.
On veut mieux.
Ça paye pas le bon prix.
On veut mieux.
On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais.
On veut mieux que ça.
La réduction des temps de repos. Les salaires peuvent faire le gros. Bons en arrière quand le haut. La pyramide de faux. D'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée.
On veut mieux.
Repos et euros à journée, non.
On veut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées.
Mieux
les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les imparciels à 24 heures. La semaine à 35 heures. Et d'autres acquittés à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs. Les groupes les plus dévastateurs. À qui cette loi fait des faveurs.
Que l'État a couré.
Le plafonnement des indemnités, on veut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car
on veut mieux que ça.
Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent à virer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au mieux de ça, v'là qu'ils pourront se faire sans raison mais
on veut mieux que ça.
Passer de 10 à 12 heures de travail par jour,
on veut mieux.
L'extension du dispositif forfait jour,
on veut mieux.
Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour,
on veut mieux.
Oui patron Jacques,
on veut mieux,
ouais.
On veut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser,
on veut mieux que ça.
S'enliser dans l'entreprise et se mépriser,
on veut mieux que ça.
S'échiner,
mieux que ça.
Et se ruiner,
mieux que ça.
Et trimer pour déprimer puis déprimer,
on veut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons,
on veut mieux que ça.
Sous les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon,
on veut mieux que ça.
Et la ponte c'est ça qu'on compte en fait d'affront,
on veut mieux que ça.
Cette taf, non,
on veut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure,
on veut mieux que ça.
On veut mieux bosser au McDo, que mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado.
C'est vrai qu'on veut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier.
Et on veut mieux que ça.
Notre pouvoir pour en pallier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner.
Car on veut mieux que ça.
Grève générale, ad vitam aeternam. Va-t'y parler, réclame, d'abdic parler, c'est le drame. Pour la bourgeoisie, car regarde qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme. Sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là. On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix. Pas de prix.
On vaut mieux que ça.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec Debout. Nous sommes collectif féministe, mixte et anticapitaliste de Nancy. Le salaire à vie est-il une réponse aux abus et aux pressions du travail salarié et est-il une garantie pour une vie digne? C'est notre question d'aujourd'hui.
Alors, On vaut mieux que ça est un collectif de citoyens et citoyennes créatifs bénévoles qui ont pour but de libérer la parole sur des problèmes de société tels que le travail. C'est donc un relais multimédia critique et populaire pour soutenir ceux et celles qui ont mal au travail. Et l'objectif est de donner des outils afin que chacun et chacune puisse réinvestir l'espace public de sa parole et de son expérience. Donc on peut aller sur le site www.onvautmieux.fr qui relaie les témoignages concernant les discriminations sexistes, racistes, homophobes, transphobes, validistes, la précarité, l'aliénation et l'exploitation dans le monde du travail actuel. Donc on va mettre tous les liens sur notre site web www.collectif-debout.org.
Sur le site de On va mieux que ça, pardon si pour la faute à tout à l'heure parce que je n'ai pas dit ça, On vaut mieux que ça, nous avons trouvé sur cet internet les témoignages d'une jeune femme dont le pseudo est Gatsy Lart. Voici donc un extrait de son témoignage vidéo qui s'intitule « Je voulais aider les gens ». Notre rubrique témoignage.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Je fais partie des gens qui ont fait le burn-out et tout. Donc voilà, j'ai travaillé comme aide à domicile quand je suis rentrée en France pendant un an et demi, même si j'étais pas du tout formée pour ça, parce que je voulais aider, je voulais aider des gens. Bref, et j'ai travaillé avec une association à but non lucratif qui préfère investir dans les voitures plutôt que dans les emplois du temps des grands-mères. On doit leur expliquer ça quand même, hein. C'est à nous de nous faire fustiger, bref. Et aussi, ils ont des statuts particuliers. La plupart du temps, on n'est pas embauché par l'entreprise, mais par les personnes âgées. C'est tellement plus facile. Comme ça, on est dans un vice juridique, un trou béant, sans fin. Je vais essayer de vous expliquer en essayant de faire une vidéo pas trop longue, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, j'ai beaucoup de choses à dire, et j'en suis sincèrement désolée. Donc voilà, j'ai fait en sorte que mes emplois du temps concordent géographiquement au niveau du temps, de toujours être disponible s'ils en avaient besoin, à décider de commencer à me mettre bien dans la merde, et il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que ça a été pression tous les jours, mensonge au téléphone, c'est-à-dire qu'un jour on vous dit d'aller chez Machine, et puis le lendemain on vous dit que vous êtes folle parce que vous y avez été, mais que vous ne deviez pas y aller parce que c'est quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est toute cette pression psychologique qu'on vous met sur les épaules pour vous rendre fou. J'ai même appelé la direction départementale du travail parce qu'à un moment donné, j'ai même eu le droit à de la diffamation. C'est-à-dire que pendant certains week-ends, on m'embauchait vraiment que pour le week-end dans l'entreprise. Et que quand certaines grand-mères appelaient pour me demander de venir bosser chez eux, pendant ce week-end, on me disait que je ne travaillais pas ici. Donc, j'ai été voir la direction départementale du travail, je leur ai parlé de ça, visiblement, j'avais des choses à défendre, mais les enregistrements téléphoniques, que ce soit des clientes sur répondeur ou que ce soit moi, ne sont pas recevables. Donc, bref, j'ai continué d'essayer de travailler, j'ai continué d'essayer de défendre ses grand-mères, j'ai essayé de continuer de faire mon travail. Au bout d'un moment, je marchais 20 km par jour, je dormais dans les parcs, parce que j'avais pas du tout le temps de rentrer chez moi, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir toujours de prendre les bus, même les horaires. Dans les petites villes, c'est pas toujours évident. Donc on marche, on dort dans la rue, pendant la pause, enfin bon bref, c'est compliqué, c'était dur jusqu'au moment où j'ai fait mon burn-out. Je fais partie des gens qui ont craqué, qui ont fait leur burn-out, qui ont essayé de se suicider, qui heureusement n'ont pas réussi, ça devait être un appel au secours vraiment bien profond. Et après ça, rien, après ça c'est le vide. C'est-à-dire que les boîtes ne vous aident pas à vous remettre. Les grand-mères ne sont pas là pour vous aider non plus. Elles n'y comprennent rien. Elles ont perdu la boule depuis longtemps. La direction départementale du travail vous explique qu'elle voudrait bien faire des choses, mais qu'elle ne peut pas. La médecine du travail veut bien vous aider, mais il y a tellement un vice juridique qu'il faut même limite appeler un avocat pour vous aider à vous faire licencier alors que vous avez essayé de vous suicider et qu'on vous demande de vous occuper de gens mourants. Donc, si je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même, comment puis-je m'occuper des autres ? On a essayé de me faire comprendre plein de fois que toutes les erreurs professionnelles étaient dues à ma faute, même quand dans les emplois du temps, on oublie complètement de vous placer et que donc personne ne s'occupe des personnes âgées pendant 24, 48 heures, enfin bref. Et donc, pour aller jusqu'au bout de cette histoire, ce qui est rigolo, c'est que quand on arrive enfin à se faire licencier, qui est une bataille d'environ, pour moi, ça a été plus de 6 mois, on va à Pôle emploi pour essayer de toucher le chômage. Ce qui est assez rigolo au passage, parce que maintenant je tiens à dire que je touche 5 euros de chômage par jour, ce qui revient environ à 150 euros de chômage par mois, quand Pôle emploi ne décide pas de m'oublier pour une raison diverse ou autre. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette histoire en fait, parce que je pense que beaucoup de gens ont vécu environ la même chose. Après ça, j'ai essayé de faire mon déclaration pour le chômage, quand j'ai enfin réussi à me faire virer. Et là, une personne m'oublie pendant 4 mois. J'essaye d'envoyer des emails. Bien sûr, comme je suis en dépression, je ne sors pas de chez moi parce que j'arrive même pas à manger, ni dormir, ni quoi que ce soit, ou de vivre, ou bref. Donc j'envoie des emails, j'essaye de comprendre. Au bout de 4 mois, quand j'arrive enfin à sortir de chez moi et d'aller voir ce qui se passe, parce que je suis anéantie, que je n'ai pas de sous et que j'ai vraiment la dalle, on me dit qu'une personne a été malade et qu'on a oublié mon dossier pendant 5 mois. Et oui, je pense qu'on est beaucoup à avoir été oublié pendant des mois et des mois. Et que donc c'était de ma faute. Et donc là, on remet mon chômage en place. Je tiens à réitérer 150 euros par mois. Hein. Moi, dans mes souvenirs, je me levais à 6 heures du mat et j'arrivais pas chez moi avant 21 heures du soir. Mais ça, c'est pas grave, c'est du temps de fun. Et donc, au bout de 5 mois, quand on vous verse d'un seul coup, je ne sais plus, 600, 650 euros de chômage, alors qu'on est déjà bien dans le rouge, que la banque vous menace énormément et tout ça et tout ça, eh bien, la CAF, au passage, décide de ne plus vous... Enfin, ou de beaucoup moins vous verser les allocs parce que vous avez touché le pactole, alors que ce pactole, vous l'avez touché et que vous êtes déjà bien dans le rouge. Donc, bref, c'est tout un système qui est fait pour que on ne s'en sorte pas. On reste chez soi. On ne fait plus rien. Donc voilà, 6 minutes 45 de vidéo juste pour vous dire qu'on vaut mieux que ça et que je ne souhaite à personne de vouloir mettre fin à ces jours. La preuve, ça fait un an, je suis encore en pyjama. J'essaye de m'en sortir, j'essaye de faire des formations, de trouver dans ma région des choses que j'aime à faire. Et en fait, j'en trouve tellement pas que je me retrouve à être formée bénévolement dans une association du type Emmaüs. Et votre entourage, des fois, votre famille... ne vous parle plus de la même manière parce que vous ne travaillez pas. Non, c'est faux que je travaille pas. Je suis bénévole, je suis juste pas payée pour. mais je fais quand même quelque chose pour ma communauté et j'aimerais bien avoir un petit peu de reconnaissance pour ça. Donc oui, effectivement, on vaut mieux que ça. On a le droit de se sentir bien dans ses baskets et ce gouvernement n'est pas du tout là pour faire en sorte que ce soit le cas.
On vaut mieux que ça. C'était le témoignage des Katsilart que vous trouverez sur les sites internet. On vaut mieux que ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire être oublié pendant plusieurs mois, pas avoir une revenu des survies? C'est quand même pas possible, tout simplement. Bon, on vient à notre deuxième part de cette émission. On va s'échanger maintenant avec Minel sur le thème le salaire à vie. Bon, merci Minel encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que tu peux te présenter très très rapidement? D'abord, on va peut-être... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Minel, j'aimerais bien savoir quelque chose avant que tu te présentes peut-être un petit peu. J'aimerais bien savoir, ça sert à comment cet témoignage de Katsila, de cette femme, dans quelle situation elle sera s'il y aurait un salaire à vie? Qu'est-ce que ça changera au niveau de son statut?
Eh bien d'abord, elle aurait un statut, parce que là, dans ce qu'elle raconte, elle oscille entre bénévole, CDD, chômeuse, enfin bref, elle n'arrête pas de changer de statut. Dans le cas du salaire à vie, elle aurait une qualification. À partir de 18 ans, elle aurait eu une qualification qui est liée à sa personne. Donc ça veut dire qu'elle la garde jusqu'à sa mort, cette qualification. Et au titre de cette qualification, elle percevrait un salaire à vie qu'on peut estimer actuellement, compte tenu des richesses disponibles en France, à 1800-2000 euros par personne. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus de bénévolat, il n'y a plus de CDD, il n'y a plus de vacations, et puis il n'y a plus de chômage, quoi. Donc je pense qu'un témoignage comme ça, dans une société qui aurait mis en place le salaire à vie, ben, on n'entendrait plus, on entendrait sûrement autre chose, hein, mais ce type de témoignage et ce type de détresse-là, je pense qu'on n'entendrait plus.
Bon, ça changera pas mal des choses. Hein. Qu'est-ce que ça changera de l'organisation de son travail, des Katsilart?
On l'entend dans le témoignage, elle critique les choix d'investissement qui ont été faits par l'entreprise. Elle dit qu'ils achètent plutôt des voitures plutôt que de se préoccuper de la qualité du travail. Dans le cadre du salaire à vie, outre mettons les 2000 euros par mois qui tombent, chaque personne est copropriétaire d'usage de son outil de travail. C'est le deuxième pilier du salaire à vie. Ça signifie quoi, être copropriétaire d'usage de l'outil de travail? Ça veut dire qu'on a tous alors quelque chose à dire sur ce qu'on fait, sur comment on le fait, sur l'organisation, sur la gestion économique de l'entreprise et donc sur le choix de l'investissement. Donc si on était dans une société de salaire à vie, encore une fois, je pense que les gens réfléchiraient ensemble à ce que l'organisation du travail soit la plus favorable possible pour chacun d'eux.
Et pour Katsilart, pour cette femme qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça changera sur sa santé?
Moi, j'imagine que, à cause de ce qui vient d'être dit sur la copropriété d'usage de l'outil de travail, eh ben, par exemple, les gens vont s'organiser pour ne pas avoir à faire dans la journée 150 km pour aller d'un bout à l'autre de Paris, comme elle explique, pour travailler. Et toutes ces situations d'épuisement, qui conduisent au burn-out, je pense qu'elles disparaîtraient, quoi. Et puis en cas de maladie, elle ne resterait pas sans revenu. Moi, j'ai encore rencontré un ami hier qui est en train de soigner un cancer. Il n'a rien. Parce que comme il travaille en freelance, il n'a rien. Il n'a aucun revenu. Il a un bout de RSA, un bout de... Bon, bref, voilà quoi. C'est pas possible ce que les gens ont à vivre là, maintenant, dans l'organisation telle qu'on l'a subie, quoi.
Ouais, alors... Résumé, pour Katsilart, pour cette femme, changera plein de choses. Ça pourra même faire plaisir à elle d'aider les autres et qu'elle n'a pas besoin d'aide elle-même. Voilà. Bon, on a une prochaine petite pause musicale. On écoute une chanson du groupe belge Darnaco Punk, René Binamé. Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec Debout. Nous sommes un collectif féministe mixte et anticapitaliste de Nancy. Le salaire à vie est-il une réponse aux abus et aux pressions du travail salarié et est-il une garantie pour une vie digne? C'est notre question d'aujourd'hui. Bon, Minel, maintenant, j'aimerais bien quand même, parce que tout à l'heure je ne savais pas dans quel ordre, que tu te présentes quand même vite fait.
Alors bon, je suis Minel, je suis adhérente au Réseau Salariat. Le Réseau Salariat, c'est une association qui s'est créée une association d'éducation populaire qui s'est créée pour faire connaître les thèses élaborées par Bernard Friot sur le salaire à vie. Voilà. Et puis je participe à un groupe qui a créé une conférence gesticulée. C'est donc une conférence gesticulée collective qu'on a jouée à Nancy 9 mars et qu'on peut jouer partout où on est invité et qui explique ces thèses qui sont un petit peu difficiles à aborder dans les livres. Donc on s'est dit que peut-être c'était plus compréhensible de les représenter de cette façon-là, quoi, voilà.
De cette façon, parce que moi aussi, c'était la première fois que j'ai vu une conférence gesticulée. C'est quand même ce que j'ai envie de souligner encore une fois, que c'est, les thèmes sont abordés presque, on peut dire, dans une pièce de théâtre et très pédagogue, en fait, du coup, c'est joué, c'est vivant, c'est pas une conférence tout sec, on peut dire. Hein, c'est ça, hein, Mine.
Oui.
Oui. Bon, alors, on a discuté beaucoup avec toi sur le salaire à vie et du coup, on a préparé un peu des questions. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui et comment ça pourrait être autrement?
Aujourd'hui, moi, je crois que le mot travail est connoté de façon très négative. Il suffit de voir dans les manifs qu'on a faites là, ces derniers temps. Il y a plein d'affiches. On veut pas de loi et on veut pas de travail. Abat le travail. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très négatif dans la façon d'envisager le travail. Et moi je l'analyse. Enfin, je suis pas toute seule. Hein. Je pense que c'est parce qu'on l'exerce dans de mauvaises conditions. Je pense aussi que c'est parce qu'on n'est pas maître de ce qu'on fait. Et on voit bien que ça a été de mal en pis dans les décennies précédentes. La souffrance au travail va croissant, les suicides sont de plus en plus nombreux. Les gens savent plus le sens qu'a leur travail. Ils font des morceaux de travail. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils sont des exécutants. Et puis même s'ils sont pas d'accord, ils exécutent. Et puis la seule créativité qui est proposée, c'est les boîtes à idées. Bon, c'est quand même un peu léger, quoi. Hein, d'avoir des idées pour avoir des primes, bon, ça va, c'est... Ça va, quoi. C'est... On a un peu l'impression d'être pris pour des billes, quoi. Hein. Mais en revanche, on peut voir les choses autrement. Enfin, moi, je pense que, par exemple, on a tous l'expérience d'un travail qu'on a fait sans pression, parce que le projet nous intéressait, parce que personne ne nous martelait la tête par au-dessus, et sans compter nos heures, quoi. Je pense qu'on a tous une expérience ou des expériences de ça. Et par exemple, simplement d'avoir préparé cette émission, on a fait un compte rapide du temps qu'on a travaillé ensemble. Ça représentait au moins une vingtaine d'heures, si on compte chaque personne qui a travaillé deux ou quatre heures pour chaque personne. Et on a tout aussi travaillé en amont pour préparer, pour trouver des informations, pour avoir des choses intelligentes à dire, bon, pour structurer l'exposé, enfin l'émission, quoi, voilà. Et donc on l'a fait. On l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, parce que ça nous intéressait, parce qu'on y a, voilà, on y a des enjeux qui comptent pour nous. Et bon, alors voilà. Donc, et ça, c'est du travail. Et c'est pour ça que moi, je suis pas d'accord de dire à bas le travail de façon générale, quoi. À bas un certain type de travail, oui. Mais moi, j'ai pris du plaisir à faire ça. Comme bon, enfin bref, je passe, je me répète, mais je pense qu'on connaît tous ça, quoi.
On peut dire que par notre motivation, on était très productives.
Oui.
Quelle ouverture un salaire à vie permettrait, Minel ?
Je pense que le salaire à vie suppose une révision complète du travail, de l'organisation du travail, et puis surtout de la production de valeur. Alors là, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu technique, mais je crois qu'avec les exemples, c'est assez éloquent. Actuellement, ce qui est reconnu comme producteur de valeur, c'est ce qui enrichit le capital. Bon, alors par exemple, tout le travail domestique n'est pas reconnu comme producteur de valeur. Mais le même travail, c'est-à-dire faire du repassage, faire du ménage, bon, etc., quand il enrichit des entreprises de services à domicile, alors là, il est reconnu comme producteur de valeur. Donc ça veut dire, on comprend bien que c'est pas le travail réel, le travail concret, c'est pas ce qu'on réalise qui est pris en compte pour la valeur, pour la valeur, mais c'est l'enrichissement du capital que ce travail permet. Donc, un autre exemple encore pour illustrer. Quand on travaille dans un hôpital public, on est réputé dépenser l'argent du contribuable. En revanche, le même travail dans un hôpital privé, là, on est producteur, on produit, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Hein. Je veux dire, soyons clairs, c'est ironique, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. C'est ce qu'on nous fait croire. Quand on travaille dans un hôpital public, on dépense. Quand on travaille dans un hôpital privé, on enrichit la France. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? C'est que actuellement, ben, on le sait bien, le rapport de force qui détermine la valeur, donc qui décide où ce qui vaut et ce qui vaut pas, ce rapport de force, il est en faveur du capitalisme. C'est d'ailleurs pourquoi les services publics en prennent un coup, parce qu'il vaut beaucoup mieux pour le capital que des écoles privées qui rapportent de l'argent aux investisseurs que des écoles publiques gratuites, et tout à l'avenant pour tous les services publics. Mais il faut être clair, ça n'est pas quelque chose d'irréversible, quoi. C'est juste le résultat d'un rapport de force. Et on peut parfaitement, nous, inverser la valeur. Quand je dis nous, c'est pas nous quatre, ou nous cinq, ou nous dix. Hein. C'est tous les travailleurs et tous les gens qui ont envie d'une autre vie, quoi. On peut inverser la vapeur et décider de valoriser économiquement d'autres activités sur d'autres bases que celles d'enrichir le capital. Bon, autre chose, autre ouverture, qui est plus qu'une ouverture, comme je le disais tout à l'heure à propos du témoignage de la jeune femme, comme on travaillerait dans d'autres conditions. Et comme tout le monde aurait son mot à dire sur l'organisation de son travail, moi, j'imagine, et je ne suis pas toute seule, que l'imagination, la créativité, la réactivité, l'intelligence de chacun et de chacune pourraient être mises en œuvre d'une façon un petit peu plus intéressante que ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'on peut imaginer qu'on serait moins aliéné par le travail, plus disponible pour réfléchir et puis vivre ensemble, quoi.
Donc le problème n'est pas le travail, mais les conditions dans lesquelles on les exerce. Mais il y a quand même les travaux pénibles. Comment ça se passera dans le cadre du salaire à vie ?
Ben, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut discuter tous ensemble. Ben, y a plusieurs solutions. Alors, les travaux pénibles, déjà, c'est quelque chose d'un peu subjectif, hein, parce que ce qui est pénible pour moi, ne l'est pas forcément pour mon voisin et réciproquement. Donc, il y a des travaux qui sont fatigants. Par exemple, je pense à tous les travaux du bâtiment. Eh ben, on pourrait très bien imaginer que de réduire la journée de travail ou de réduire dans les années de travail, quoi, de façon à ce que les gens ne soient pas complètement détruits et démolis par le travail qu'ils font. On peut, sur un autre plan, par exemple, tout ce qui relève des poubelles, enfin de ces choses-là, on peut très bien envisager, réfléchir à un partage des tâches et à une organisation différente, que ce ne soit pas un métier pour la vie, mais que ce soit une activité que tout le monde doit faire à un moment de son existence. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant dans le réseau salariat, c'est que tout est à... Et dans ce projet, quoi, c'est que tout est à réfléchir, tout est à inventer. Donc c'est à nous de nous en emparer, puis à nous de travailler pour organiser un monde différent. Quoi. Mmh. Il n'y a pas de réponse à tout. Hein. C'est des perspectives. Quoi.
Bah, alors en résumé, des travaux pénibles, bah, partager les tâches et une réduction des temps de travail. Bon, le salaire à vie, un peu plus concrètement, comment ça se passera pour les gens, le salaire à vie ?
Alors, il se passe que à 18 ans. Alors, on dit 18 ans parce que c'est actuellement l'âge de la majorité politique et donc on y adjoint, nous, la majorité économique. Donc, on dit 18 ans, mais après, là, je peux discuter si c'est nécessaire. Donc, à 18 ans, tu es qualifié. C'est-à-dire que tu obtiens cette qualification qui est la reconnaissance de ta capacité à produire de la valeur. Et tout le monde a cette qualification, il n'y a pas besoin de passer des examens, ni quoi, ni qu'est-ce. On a cette qualification, et cette qualification, elle donne droit au salaire à vie, donc jusqu'à la mort, quoi. Et avec l'autre pilier dont je parlais tout à l'heure, qui est la copropriété d'usage de l'outil de travail, et le troisième pilier de la qualification, qui est la gestion démocratique des caisses de cotisation. Alors, je dis un mot rapide sur les caisses de cotisation, parce qu'évidemment, tout ce salaire à vie, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc, tout ce qui est actuellement versé aux actionnaires, au capital, etc., tous les bénéfices, toutes les plus-values, la plus-value faite par les entreprises, elle est versée à des caisses de... Elle sera... versée à des caisses de cotisation, dont celle qui distribuera le salaire à vie, et aussi à des caisses d'investissement qui vont permettre aux entreprises d'investir pour améliorer leurs conditions de travail ou acheter une machine pour en remplacer une qui est cassée, ou enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Voilà. Le salaire à vie, c'est quelque chose d'inconditionnel, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir 18 ans, la seule condition, c'est d'avoir 18 ans, et d'irréversible. Bah, ça veut dire qu'on peut jamais vous l'enlever, quoi.
Inconditionnel. Bon, c'est quand même difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il arrivera avec l'emploi ? Il n'y aura plus d'emploi ?
Alors non, il n'y a plus d'emploi. Il y a un livre, une plaquette qui est très intéressante, dont le titre est « Arrêter le chômage, en finir avec l'emploi ». Et ça a l'air paradoxal, mais en fait pas du tout, quoi, parce que c'est l'emploi qui crée le chômage. Donc, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'employeurs. Et il n'y a plus de dépendance par rapport à quelqu'un qui, même s'il est de bonne volonté, même s'il vous veut du bien, il est lui-même esclave de la production, des chiffres d'affaires, machin, machin. Donc, il est maître de votre vie, quoi. Enfin, en tout cas, de votre vie professionnelle. Et d'ailleurs, le projet intéresse aussi les employeurs les employeurs actuels, qui seraient alors complètement débarrassés de cette fonction d'employeur et de tous les problèmes que ça pose, puisque le salaire à vie, ce ne serait pas un employeur qui paierait les gens, mais ce serait les caisses de cotisation. Donc c'est un travail, ça s'appelle salaire, parce que c'est le résultat du travail, mais on n'est pas dans un rapport de dépendance avec un employeur dans ce type de salariat-là.
Bon, aujourd'hui, il y a des métiers qu'on dit qu'ils sont improductifs. Par exemple, éduquer son enfant, c'est pas productif. Ou voilà, ça, ça augmente pas, ça enrichit pas les valeurs du capital. Remettre en cause les valeurs travail, permettre de revaloriser des métiers considérés improductifs, c'est ça ma question.
Oui, et c'est tout à fait vrai. C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pas valorisé actuellement parce que ça n'enrichit pas le capital. On peut très bien réfléchir autrement et retourner les choses en notre faveur. Et c'est d'ailleurs ça qui légitime la valorisation de toutes ces activités, entre guillemets, là, qui légitime le salaire à vie.
Alors, on avait aussi une grande discussion sur les mots, parce que salaire, ou plutôt revenu, salaire, ça fait peut-être penser au salariat, etc. Mais les réseaux salariés, ils défendent quand même le mot salaire. Peux-tu nous expliquer pourquoi ?
On parle de salaire et pas de revenu, parce que le mot revenu désigne toute ressource monétaire qui n'est pas un salaire. Autrement dit, ça peut être les revenus de la propriété lucrative. Ce qu'on appelle la propriété lucrative, c'est le fait d'être propriétaire de quelque chose et de gagner de l'argent grâce à cette propriété-là. C'est par exemple le fait d'être propriétaire d'un appartement puis de le louer. Voilà. Alors, tu as un appartement, tu le loues et tu perçois un revenu de ça. C'est exactement le même cas aussi pour les actionnaires hein, qui ont investi et qui perçoivent des revenus de leurs actions. Le terme de revenu, c'est un terme qui ne remet pas du tout en cause la définition actuelle du travail, à savoir une force qui est au service du capital. C'est d'ailleurs pourquoi le revenu de base est envisagé très sérieusement par le gouvernement, parce que ça ne change strictement rien pour les dominants. Hein. Les dominants, c'est la classe dominante, elle préfère perdre l'argent plutôt que perdre le pouvoir. Alors elle fait la charité aux pauvres, ça coûte un peu, mais en tout cas elle ne leur raccorde pas une véritable citoyenneté. On leur donne un peu de sous pour survivre et encore, et puis surtout pour qu'ils la ferment. Et dans le même temps, on leur reproche cet argent qu'on leur donne. Et donc, comme quand même, faut pas exagérer, on les oblige à accepter n'importe quel emploi pour justifier l'aumône qu'on leur fait. C'est ça le pouvoir, c'est ça leur pouvoir. Tandis que dans le salaire à vie, c'est la participation collective de toute la capacité de toutes les gens qui vivent dans le pays. À produire des richesses qui sont ensuite réparties entre tout le monde. Le salaire à vie, ça reconnaît la capacité de chacun à être producteur et pas être seulement quelqu'un qui a un besoin de manger, de boire et de dormir. Et c'est aussi donner des droits et une place à chacun et à chacune. Et le fait, par exemple, de la copropriété d'usage et outils de travail, c'est bien une manière de dire qu'on s'adresse à des gens responsables et pas à des gens... et pas à des assistés, à des débiles, ou tout ce qu'on entend toujours. Quoi.
Salaire, parce qu'on est tous actifs, on est tous créateurs de notre vie, même si aujourd'hui, on est chômeur, on est créatif et actif.
Oui, ça ne veut pas forcément dire qu'on est tout le temps, 100% du temps actif. Hein. Il y a aussi des moments où on travaille plus que d'autres ou pour une raison ou une autre.
Hein. Cette question d'activité, c'est aussi... Enfin, on a l'habitude de dire dans la conférence gesticulée qu'on ne connaît personne qui s'accroche le matin à un porte-manteau et qui appelle le soir pour qu'on vienne l'enlever. Quoi. On fait tous des choses. On fait la vaisselle, on fait les vitres, on écrit des choses, on s'occupe d'un enfant, on fait du jardin. Et tout ça, c'est des choses qui font partie de la production de richesses. Mais on est tellement habitué à considérer que c'est des loisirs, que c'est des histoires de que c'est bon pour les femmes au foyer, que machin, machin, qu'on a du mal à faire ce retournement. Je crois que l'idée du salaire à vie, c'est un très gros retournement mental. Quoi.
Oui, toutes ces choses sont du travail. Pardon.
Je voulais aussi ajouter quelque chose à propos de l'histoire du revenu dont on parlait tout à l'heure, que je pense que se battre pour un revenu, c'est vraiment conforter le modèle économique actuel. C'est rester dans la logique de la charité institutionnelle, donc dans la logique de l'assistanat. Et on va perdre, on perd, une fois de plus on perd de toute façon, si on nous donne ça, c'est qu'on a perdu. Quoi. On a bien vu que le RMI qui est en place depuis... La fin des années 80 et puis le RSA n'ont rien changé fondamentalement aux difficultés des plus fragiles. Bon, ça a aidé un peu, mais on ne peut pas se contenter de ça, quoi. Donc augmenter la part de la charité institutionnelle, ça résoudra aucun problème. Et moi, je trouve très embêtant qu'on engage dans cette lutte, dans la lutte pour un revenu de base, une énergie, parce que les gens sont de bonne foi, ils sont sincères, mais toute cette énergie qu'ils vont engager dans cette lutte, elle est perdue pour un changement plus radical, et elle éloigne encore davantage ce changement-là, dont on a vraiment... Enfin, qui est le seul, qui, selon moi, qui est intéressant. Alors, on divise les forces au moment où il serait nécessaire de les unir pour inverser la vapeur, et puis pour inverser la valeur, surtout... et pour imposer notre vision des choses. Alors, on continue de faire la manche pour récupérer des miettes de ceux qui s'engraissent tranquillement sur notre dos, hein, sans qu'un patron du CAC 40, il gagne 104 fois plus d'argent que le SMIC, enfin, 104 SMIC, quoi. Je ne sais pas si c'est à peine imaginable. Donc, voilà, alors on continue de faire la manche, de demander des miettes, alors que, bon, notre position, c'est qu'il faut entrer dans une logique de lutte de classe, c'est qu'il faut retrouver nos forces ensemble, parce qu'on en a, mais on les a perdues, on ne sait plus où elles sont. Il faudrait connaître nos forces et les unir pour changer cet ordre du monde-là. Quoi.
Changer l'ordre du monde. Bon, une pause musicale. Une chanson de Claude Michel, J'ai gagné assez.
Ils sont partis pour l'école, il est parti travailler. Sur la table, il y a des bols, de la vaisselle plein l'évier. Le linge sale traîne par terre et les lits ne sont pas faits. Il y a tellement à faire qu'elle en est découragée. Gagne assez pour que ma femme n'ait pas besoin de travailler. Gagne assez pour que ma femme reste au foyer. Il faut enlever la poussière, tout ranger, tout nettoyer. Vite passer la serpillière, que ça ait le temps de sécher. Il y a les courses à faire, les repas à préparer. S'occuper du petit Pierre qui commence juste à marcher. Hey. Gagne assez pour que ma femme n'ait pas besoin de travailler. Gagne assez pour que ma femme reste au foyer. Quand ils reviendront le soir, affamés et fatigués, elle surveillera les devoirs tout en préparant le dîner. Es-tu passé chez le notaire, à la banque, chez le teinturier? As-tu racheté de la bière et m'en as-tu mis au frais? As-tu lavé mes chemises, repassé mes pantalons? As-tu fini les reprises à mes chaussettes, mes caleçons? As-tu pensé à ma mère? N'oublie pas de lui acheter un cadeau d'anniversaire et de lui téléphoner. Eh, je gagne assez pour que ma femme n'ait pas besoin de travailler. Je gagne assez pour que ma femme reste au foyer. Même s'il descend la poubelle en disant je vais t'aider, pendant qu'elle fait la vaisselle, il regarde la télé. Et voilà le petit Pierre qui vient de se mettre à pleurer. Tu ne peux pas le faire taire, tu vois bien que je suis crevé. Hey, gagne assez pour que ma femme n'ait pas besoin de travailler. Gagne assez pour que ma femme reste au foyer. C'est elle qui sera la dernière à venir à la télé. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de son temps toute la journée? Si tu veux pouvoir, ma chère, t'asseoir sur le canapé, avoir enfin des horaires et après te reposer. Gagne assez pour que ton homme n'ait plus besoin de travailler. Gagne assez pour que ton homme reste au foyer.
Vous êtes sur RTN 90.7 avec Debout, un collectif féministe mixte et anticapitaliste de Nancy. Nous sommes en train de parler sur le salaire à vie avec Minel, notre experte sur les salaires à vie. Alors, comme Claude Michel nous envoie envie de parler sur les femmes, est-ce que le salaire à vie apporte des avantages aux femmes ou est-ce que c'est qu'un argent poche?
Le salaire à vie, il apporte des avantages à tout le monde, y compris aux femmes, parce que c'est une source d'émancipation et c'est dans la mesure où ça mettra les femmes en situation d'indépendance totale, en tout cas d'indépendance financière, par rapport à qui que ce soit. Donc elles auront le choix, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement pour toutes les femmes. Alors après, il faut faire une distinction avec les revendications portées par le Front National, hein, qui demande une allocation pour que... C'est une allocation pour que les femmes restent à la maison. Nous, c'est pas ça qu'on dit. Hein. On dit que tout le monde a droit à un salaire à vie et qu'il reste à la maison ou pas. C'est à chacun de choisir. Quoi.
Alors, qu'est-ce que concrètement ça améliorerait pour les femmes ?
Ben, il me semble déjà ça. Hein, la fin du rapport de dépendance financière aux hommes ou aux institutions familiales. La possibilité, du coup, de devenir sujet de sa vie, de s'autodéterminer, quoi. On peut aussi imaginer sur la question de la prostitution que ça donnera les cartes autrement, quoi, que la prostitution subie parce qu'on ne peut pas faire autre chose pour gagner sa vie, ce serait plus nécessaire. Enfin, on peut imaginer que ça n'existerait plus. Après, pour le reste, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, les questions d'argent, donc les questions d'argent, les questions de logement, enfin, tout ça serait complètement différent, quoi, et selon moi, libérateur, quoi.
Et les revenus entre hommes et femmes, comme le temps de travail, etc., qu'est-ce que ça changera, le salaire à vie ?
D'abord, il n'y a plus de revenus dans le salaire à vie.
Ah oui.
Et puis, le salaire à vie est le même pour tous. Hein. Enfin, elle-même pour tous, elle-même pour tous, on va dire ça comme ça, parce que sinon, c'est trop long, mais en tout cas, il n'y a pas de distinction d'aucune sorte, quoi.
D'accord.
Et puis, évidemment aussi, oui, j'ai oublié de le dire, pour les femmes retraitées qui actuellement payent cher parce qu'elles ont fait du travail qui n'était pas valorisé, donc elles n'ont pas assez d'annuité, donc, tout le monde connaît un peu cette histoire-là. Donc là, de toute façon, la retraite, elle n'existe quasiment plus dans le salaire à vie, puisque ce n'est pas un moment où on change de... Voilà, le travail sera organisé autrement. Et si les gens ont envie de continuer à travailler jusqu'à 70 ans, personne ne les en empêchera. Et puis, de toute façon, le salaire, c'est indépendant, quoi.
Alors, le salaire à vie, serait-il notre futur heureux ? Il va tout régler, les salaires à vie ?
Oh non. Ça va régler... On va régler un certain nombre de trucs, mais sur la question du combat féministe, à mon avis, ça va pas régler l'affaire, quoi. Ça donnera peut-être plus de force et d'indépendance, ça donnera plus de force et d'indépendance aux femmes, mais le combat féministe, il sera toujours à mener, quoi.
Oui. Mais ça permet, on peut imaginer que ça puisse amener à avoir une organisation plus égalitaire sur le partage du temps de travail, sur le partage des tâches, y compris des tâches familiales qui sont dévalorisées actuellement. Mais ça demande quand même encore un combat féministe, parce que les hommes, ils ne vont peut-être pas se laisser faire, comme les patrons.
C'est sûr. Bon, le temps est presque fini. Pour conclure, j'ai bien aimé aussi de la conférence gesticulée, c'était les changements des slogans. Tu peux faire ça ici pour nous aussi de l'émission, Minel ?
Les changements des slogans, c'est-à-dire que ce qu'on se dit, c'est que dans les manifestations, il faut qu'on arrête de parler comme des gens qui font la manche, quoi. Il faut qu'on arrête de parler comme des misérables et qu'on prenne les choses en main. Et par exemple, au lieu de demander un emploi pour tous... c'est-à-dire demander à un employeur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me prendre chez vous ? Et ben nous, on demande un salaire pour tous et toutes, quoi. Et ben voilà, par exemple, un changement de slogan.
Bah, merci beaucoup, Minel, à toi. Et les salaires à vie, un projet intéressant à réfléchir, continuer à réfléchir là-dessus et surtout mettre en place.
Oui.
Au revoir.
À bientôt.
Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous.
Ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous.